Savez-vous que le fondateur du Swatch Group, Nicolas Hayek, a en partie relancé l'industrie horlogère suisse dans les années 70 avec la Swatch? Mais savez-vous également qu'il est à l'origine de la Smart? Et oui, je parle bien de la voiture. Cette anecdote est complètement folle. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va découvrir le lien qui peut exister entre Swatch, Smart et Nicolas Hayek. Ça va être dingue. Aujourd'hui, nouveau format de vidéo où justement on va dénicher les anecdotes assez surprenantes qui touchent l'industrie horlogère. Avant de découvrir cette anecdote, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de contenu de ce type et dites-moi dans les commentaires si ce nouveau format vous plaît. Afin de mieux comprendre le lien qu'il existe entre Swatch et Smart, il est important de revenir sur l'histoire de Nicolas Hayek ainsi que du Swatch Group. Nicolas Hayek est né en 1928 à Beyrouth au Liban. C'est un entrepreneur suisse d'origine libanaise qui a notamment fait une partie de ses études en France. Il a grandi dans une famille quand même assez aisée car sa mère était dentiste et son père était professeur à l'université américaine de Beyrouth. Ses premières expériences d'entrepreneur, il les fait avec son beau-père qui possède une petite fonderie. Malheureusement, son beau-père avait fait un AVC et la famille lui a donc demandé de gérer les affaires de l'entreprise. C'est là qu'il va connaître ses premiers succès. Grâce à un contrat avec la fonderie qui devait réaliser des pièces pour Mercedes, il va commencer à se faire un nom et sera recommandé auprès de d'autres entreprises. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il commence à avoir un petit lien entre l'automobile et surtout avec Mercedes notamment. En 1963, il fonde la société de conseil Hayek Engineering à Zurich et vous allez voir, cette société jouera un rôle très important. Pour revenir sur l'industrie horlogère suisse, jusqu'au début des années 1900, l'industrie horlogère était principalement constituée d'entreprises et de manufactures qui travaillaient indépendamment les unes des autres. C'est avec les diverses grandes crises financières comme la Grande Dépression qu'il y a eu en 1929 aux États-Unis principalement, qui a poussé les firmes horlogères, principalement suisses, à se regrouper pour mieux affronter les difficultés et faire face à la concurrence principalement. Les fabricants de montres sont alors trop petits, trop faibles et surtout trop dispersés. La crise les frappe de plein fouet, menaçant sérieusement leur activité et leur survie. Dans la tourmente, la Confédération des principaux établissements bancaires crée en 1931 la SUAG pour un nom très compliqué que je n'arriverai pas à prononcer, mais je vous l'affiche juste ici, qui est un ancien groupement justement de fabricants de montres suisses. La SUAG est une société holding qui regroupe plusieurs fabricants de pièces ainsi que des marques emblématiques, enfin ainsi que des marques de montres en fait comme Longines, Mido, Oris, Rado et d'autres. Il se trouve que ce groupe n'est pas exactement le premier groupe d'horlogerie. En 1929, la marque Omega subit les conséquences économiques du conflit mondial et se laisse embarquer dans une série de mouvements sociaux internes qui plombent les comptes de la manufacture. Pour rebondir, Omega s'associe avec Tissot et relance ainsi ses activités. Les deux marques créeront ensemble, quelques années plus tard, la holding SSIH pour Société Suisse de l'Industrie Horlogère. Le groupe, la SUAG, ne viendra qu'après ce coup d'essai, mais en imposant un groupe horloger d'une toute autre ampleur. Dans les années fin 70, confronté à une nouvelle crise, celle dite du quartz, et menacé d'extinction par les montres électroniques en provenance du Japon, notamment par Seiko, la SUAG et le groupe SSIH s'allient pour former un vaste ensemble, le groupe SMH, pour Société Microélectronique et d'Horlogerie. Ces deux groupes fusionneront grâce aux efforts consentis par les banques en 1983. Ce groupe horloger prendra en 1998 le nom de Swatch Group. Le Swatch Group avait pour but dès sa création de regrouper les différentes compétences des fournisseurs et des marques afin de former un groupe beaucoup plus solide et plus résistant qui pouvait rivaliser contre les Japonais et le quartz. C'est à partir de là que pour contrer et faire concurrence au quartz japonais, il fallait trouver un produit et ça sera la Swatch qui sortira en 1983. La Swatch, qui veut dire Swiss Watch, montre suisse, va être peu coûteuse à fabriquer et nécessite peu de main d'œuvre. Lors de sa sortie, cette montre fera un carton. J'ai d'ailleurs fait une vidéo beaucoup plus détaillée sur le sujet, je vous mets le lien dans la description si vous voulez en connaître davantage sur cette période. Dans cette lancée, avec le succès de la montre Swatch ayant travaillé dans l'industrie automobile auparavant, fin des années 90, Nicolas Hayek décide de se lancer dans l'automobile en essayant d'appliquer à la voiture le même concept qu'il a pu appliquer aux montres Swatch, ce qui est quand même totalement fou. Le projet de base était de créer une mini voiture dotée de moteurs électriques montée dans les roues et d'une carrosserie aux couleurs interchangeables en fonction du conducteur, enfin une carrosserie que l'on pouvait changer. Il a même envisagé un système de location de ses voitures en libre-service. L'idée était très novateur, enfin surtout de nos jours car on sait que maintenant c'est possible et ça se fait, mais à l'époque beaucoup moins. Il va donc commencer à designer une voiture à deux places dans sa propre entreprise avant de se rendre compte qu'il allait avoir besoin d'un partenaire industriel pour développer cette voiture. Il ira voir différents constructeurs de voitures qui refuseront ce projet. Le seul qui va accepter, ce sera Volkswagen. D'ailleurs, la société en commun verra le jour au milieu de l'année 1991 et aura pour objectif de créer cette voiture germano-suisse. Malheureusement, deux ans plus tard, Volkswagen se retire du projet en raison de la complexité technique, beaucoup trop compliquée à développer, et aussi d'une rentabilité qui était quand même assez aléatoire. Nicolas Hayek cherchera un autre partenaire industriel après le refus de General Motors et trouvera enfin un accord avec Mercedes qui trouvait en la Smart l'occasion de concrétiser le projet de Johann Tom Ford. Rappelons que Johann Tom Ford, qui était un collaborateur de Mercedes, a eu l'idée de construire une voiture qui pouvait se faufiler dans les embouteillages, mais son projet n'a pas abouti. C'est pour cela que Mercedes voit alors une très forte opportunité. La société en commun verra le jour en 1994. En 1995, deux prototypes sont présentés, Nicolas Hayek, trouvant que ses futures voitures ne correspondaient pas à l'image qu'il avait prévue, décide de poursuivre le développement de sa Swatch Mobile au sein de son groupe. Le nom Smart est créé en 1995 et c'est la contraction de Swatch de Mercedes et du mot art qui est le nom donné au projet. Dès son lancement, la voiture se démarquera avec des couleurs vives. En 1997, la première voiture Smart sort des lignes d'assemblage de la nouvelle usine d'Hambach en France. Mais en décembre de cette même année, et sur le point d'être commercialisée, la classe A va échouer au test de l'élan, ce qui va être un échec pour la voiture et pour Mercedes. À la suite de ça, la Smart fait l'objet de modifications techniques pour s'assurer qu'elle ne subisse pas le même sort dès sa commercialisation. Sa commercialisation sera donc repoussée. Parce qu'il faut savoir que modéliser une voiture est très compliqué, d'ailleurs c'est pour ça que Volkswagen s'est retiré. La Smart City Coupé est lancée en octobre 1998 et ça va être un échec. D'ailleurs, le nom de ce modèle sera changé pour l'appeler Fortwo. Les investissements qui étaient nécessaires pour poursuivre le projet étaient devenus beaucoup trop importants. Nicolas Hayek étant actionnaire, décide de se retirer du projet. Le groupe Daimler-Chrysler reprendra le contrôle total de la société. C'est seulement en 2007 que la marque parvient à l'équilibre financier. On estime que la marque a perdu entre 2003 et 2006 un peu plus de 4 milliards d'euros, ce qui est quand même énorme. Nicolas Hayek décédera en 2010, laissant ce projet derrière lui. Certes, il a réussi à redresser l'industrie horlogère suisse et il a souhaité implémenter exactement les mêmes codes dans l'automobile, mais malheureusement, ça n'a pas marché, ou du moins, pas comme il le souhaitait. Parce qu'il faut savoir que lors de la conception de la Smart, miniaturiser une voiture était très petit, très coûteux et surtout, il se trouve que les gens en fait avaient peur de monter dans la voiture parce que y a très peu de carrosserie. Alors que dans une Twingo à l'époque qui cartonnait, justement il y avait un peu plus de carrosserie et c'est vrai que l'on se sentait beaucoup plus en sécurité que dans une Smart et aussi c'était le prix de la Smart qui était exorbitant pour une simple voiture de place. On peut dire que la Smart était plutôt une voiture destinée aux grandes métropoles et à une clientèle quand même assez aisée. Je trouve que cette anecdote est quand même assez folle. Ok, l'horlogerie et le monde de l'automobile sont quand même étroitement liés, mais de là se dire que dès le début, on pouvait faire une Swatch mobile, c'est quand même assez fou. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette anecdote et si vous voulez plus de vidéos de ce type, dites-le-moi également. Si vous voulez savoir comment Rolex a pu sauver la manufacture Zenith, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche. Et moi, je vous dis à tout de suite !